Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à notre séminaire sur le combat spirituel pendant ce week-end, nous étions ensemble vendredi soir, samedi matin et puis samedi soir aussi, sachez que Rémi a enregistré nos différentes sessions, sessions dans lesquelles, pour ceux qui étaient présents, vous l'avez vu, j'ai livré beaucoup d'éléments d'information sur le sujet. Et puis celles et ceux qui ont le temps, sachez que demain après-midi, il y aura encore une session pour les dames. Et ces dames ouvrent leur club aux hommes. Profitez-en, messieurs. C'est pas souvent. C'est exceptionnel, voilà. Je ne sais pas s'il y aura un droit d'entrée.
Il y a des gâteaux.
Hein, il y aura des... En tout cas, voilà. Et il y aura une session demain après-midi sur le monde des guérisseurs, les différentes catégories de guérisseurs qu'on rencontre en France, comment fonctionne ce monde-là également. Puis je vous parlerai également un petit peu de l'hypnose, etc., de toutes sortes de questions qui sont très actuelles. L'objectif est de vous donner des éléments d'information, de poser quelques jalons aussi pour vous aider. Alors ce matin, nous terminons notre thème sur la question du combat spirituel. Et nous allons le faire au travers d'un passage de l'Ancien Testament, un passage que j'apprécie beaucoup et que nous trouvons dans le livre des psaumes. Et je vous propose de lire, pas un des plus beaux psaumes parce qu'ils sont tous beaux, mais le psaume 91, qui est un psaume qu'on appelle un psaume de pèlerinage. Vous savez qu'il y a différentes catégories de psaumes, et les psaumes de pèlerinage, c'est quoi ? Un psaume de pèlerinage, c'était un psaume qui nous relate un petit peu ce que vivaient les pèlerins à l'époque. Donc, essayez de vous remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes 2500, 3000 ans, ou 500 ou 1000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas exactement. Imaginez un petit peu des hommes et des femmes qui sortent de chez eux, partout en Israël, et qui se rendent au temple. Parce qu'à ce moment-là, pour pouvoir bénéficier de la protection de Dieu et du secours de Dieu, c'était pas comme nous, on pouvait pas prier n'importe où, on savait que Dieu était là et qu'il avait la capacité d'intervenir, mais pour bénéficier de la protection de Dieu, il fallait se rendre au temple. Et donc vous aviez des guerriers, vous aviez des hommes et des femmes, des familles aussi, des personnes qui vivaient des combats spirituels, d'autres qui vivaient comme tout un chacun, qui avait une souffrance, une maladie, une difficulté ou que sais-je. Et donc c'est avec cette dynamique-là ou avec cette pensée-là que ces hommes et ces femmes se rendaient au temple de Jérusalem pour trouver du secours. Donc ça, c'est un petit peu pour dresser le contexte dans lequel ce psaume a été écrit, ou en tout cas ce à quoi il fait référence. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. » Ça se comprend, pour certains il y avait des trajets qui duraient plusieurs jours peut-être. Ni la peste non plus qui rôde dans les ténèbres au verset 6, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Et le verset qui est le verset clé ou central de ce psaume, et si vous pouviez garder une pensée, gardez cette pensée, et ce sera là aussi le thème de mon message ce matin, le refuge qui protège ta vie, c'est le verset 9. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Si vous êtes d'accord avec ça, vous avez le droit de dire amen. Alors, quelques petites choses par rapport à ce psaume. En réalité, je vous propose ce matin d'avoir deux grands volets. Donc, deux grands volets sur notre psaume. Et dans un premier temps, nous allons voir un petit peu ce qui se passe ici. Et ce que nous constatons dans un premier temps, c'est qu'il est question ici d'attaques spirituelles. Alors ça surprendra peut-être quelques-uns parmi nous, parce que cela n'apparaît pas au premier abord à une lecture simple de ce psaume. Néanmoins, lorsqu'on étudie, lorsqu'on creuse un petit peu la chose, on découvre des éléments d'information très, très intéressants. Il nous est dit ici que quelqu'un cherche à déstabiliser le pèlerin qui se rend à Jérusalem ou l'enfant de Dieu aujourd'hui. Et cela apparaît au verset 3 où il est question de l'oiseleur. De qui s'agit-il ? Qu'est-ce qu'un oiseleur ? Eh bien, un oiseleur, pour ceux qui étaient déjà en Afrique, vous le savez, c'est quelqu'un qui sait et qui sait comment faire pour attraper des oiseaux. Et généralement, il consacre une grande partie de son temps à observer comment les oiseaux fonctionnent et il va chercher à façonner toutes sortes de pièges pour essayer de les attraper. Alors autrefois, on cherchait à les attraper pourquoi ? D'une part pour leur plumage, pour pouvoir les mettre en cage, pour pouvoir les regarder, les observer. Et puis certains peut-être aussi devaient les attraper pour pouvoir les manger. Attraper un oiseau, c'est quelque chose de très difficile. Ne serait-ce qu'essayer de prendre un oiseau en photo, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi j'ai essayé à plusieurs reprises derrière chez moi, et puis à chaque fois, alors que j'ai beau marcher pieds nus et faire le plus doucement possible, il me voit toujours, et la plupart du temps je me fais avoir. Donc l'oiseleur, c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'observer, d'analyser, de regarder, qui était aussi très très patient pour voir comment les choses se déroulaient. De tout temps, la chrétienté et le monde juif aussi a vu derrière les traits de l'oiseleur dont il est question ici, en réalité plus simplement qu'un simple personnage, mais en réalité a vu derrière cela celui qui cherche à nous déstabiliser, celui qui cherche à nous capturer, celui qui cherche à nous mettre des bâtons dans les roues, comme nous l'avons vu tout au long de ce séminaire sur le combat spirituel, à savoir le diable et toute son équipe de démons. Et cela apparaît encore une deuxième fois au verset 6 cette fois-ci. Au verset 6, il est parlé du fléau de la peste qui ravage en plein midi. Deux remarques par rapport à ce verset 6. Le mot fléau ou peste en hébreu désigne aussi dans certains manuscrits de l'Ancien Testament le nom d'un démon, et le verbe ravager est proche lui aussi d'un mot qui fait référence à une activité démoniaque. Et c'est pour cela que vous avez par exemple le Targum, qui est une traduction araméenne de certains passages de l'Ancien Testament, qui traduit par exemple verset 6 de ce psaume 91 de la manière suivante: « Tu ne craindras pas les démons qui circulent la nuit, ni l'ange de la mort qui vole en plein jour. » Et la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, que Paul cite souvent dans le Nouveau Testament, hein, vous savez que Paul cite beaucoup l'Ancien Testament, et la plupart du temps, lorsqu'il cite l'Ancien Testament, Paul cite l'Ancien Testament d'après la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et donc la Septante traduit ainsi: « Tu ne craindras ni la mauvaise affaire qui rôde dans l'ombre, ni le mauvais coup, ni le démon de midi. » Ça vous dit quelque chose, cette expression, le démon de midi? Une expression dans la pensée populaire qui fait référence à ce qui arrive parfois à certains hommes à l'âge de la cinquantaine, lorsqu'ils commencent à détourner les regards de leur épouse et vont chercher des femmes plus jeunes. Et donc cette expression vient directement de ce psaume 91 et en particulier de la traduction grecque de l'Ancien Testament, à ne pas confondre avec les démons de minuit. Ça c'est le groupe Image qui chante ça. Il y en a peut-être qui ont dansé là-dessus même, je ne sais pas. Enfin ça c'est une autre histoire quoi. Ça rappelle des souvenirs à certains. Donc sous les traits de l'oiseleur, sous les traits de cette activité démoniaque dont il est question ici au verset 6, mais aussi au verset 13, il est question également d'une activité démoniaque ou en tout cas surnaturelle, puisque au verset 13, il est question du léopard, il est question de la vipère, du dragon, et la tradition juive a vu derrière cela plus que des créatures réelles ou imaginaires, mais en réalité des démons ou des êtres surnaturels qui leur faisaient peur, qui craignaient, et qu'on peut voir derrière les traits des animaux qui sont cités à la fin de ce psaume. Alors ce psaume met en évidence effectivement qu'il y a une activité démoniaque qui est là, qui est sournoise, dont nos amis juifs avaient déjà conscience à l'époque. Et cela nous rappelle également que nous avons un ennemi en tant que chrétiens. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, puisque j'en ai largement parlé pendant ce séminaire sur le combat spirituel et aussi comment faire pour accompagner une personne au niveau spirituel pour la délivrance, mais c'est une réalité. Et l'apôtre Paul nous le rappelle aussi dans son épître aux Éphésiens, et Emmanuel nous l'a lu tout à l'heure, à savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des personnes, contre des principes, contre une intelligence, mais à lutter contre des esprits, contre des puissances, contre des autorités, autrement dit, à lutter contre une activité démoniaque qui est là, qui nous entoure, qui est présente dans ce monde spirituel et qui va avoir des incidences dans notre monde tout simplement. Et nous autres, en tant que chrétiens, je crois qu'il est important de nous rappeler que nous ne sommes pas à l'abri de cela. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas parce que nous connaissons le Seigneur ou que nous avons vécu des expériences que l'autre, comme l'appelle parfois mes amis africains, ou plutôt comme je l'appelle chez mes amis africains, parce qu'ils parlent souvent du diable, et par conséquent, pour nuancer un petit peu, je l'appelle non pas le diable là-bas, mais je l'appelle l'autre, pour ne pas non plus lui donner trop d'importance, l'autre est là. Et Pierre nous le rappelle dans son épître, lorsqu'il dit que ce sont les enfants de Dieu, en premier lieu, qu'il cherche à dévorer. Le diable est là, comme un lion rugissant, dira-t-il. Et parfois, il y a des temps, il y a des moments dans nos vies où nous pouvons vivre des attaques spirituelles plus fortes et plus intenses que d'autres. Et on ne sait pas toujours à quoi c'est lié. Ça peut être lié, comme nous l'avons vu hier, à l'occultisme, ça peut être lié au fait que nous annonçons l'Évangile, ça peut être lié au fait que nous répondons à l'appel de Dieu, ça peut être lié au fait que Dieu est en train de faire le ménage dans notre vie et veut nous libérer de certaines entraves, de certains liens qui sont là, pour nous permettre de rentrer dans un nouveau niveau spirituel avec lui. Mais parfois, sans que nous comprenions quoi que ce soit, il y a des attaques qui peuvent survenir, surgir. J'aimerais à cet effet vous lire une anecdote, ou plutôt une histoire que je relate dans le dernier livre que j'ai écrit sur le sujet, Le combat spirituel. Et pour ne pas dire n'importe quoi, je vous propose simplement de vous lire cette histoire. Elle m'a interpellé il y a un peu plus d'un an de cela, j'étais à Nice et j'ai eu l'occasion de dormir chez un collègue pasteur et son épouse est médecin. Et elle m'a raconté un truc de ouf qu'elle a vécu il y a 2 ans ou 3 ans de cela. Je vous lis simplement son histoire. Elle a été opérée parce qu'elle a subi l'ablation de l'utérus pour un très gros fibrome, c'était en 2012. Et à ce moment-là, elle a failli perdre sa vie. Et voici ce qu'elle raconte par rapport à ce qu'elle a vécu. L'opération s'est bien passée. Mais dans les heures qui ont suivi, j'ai présenté une hémorragie interne. 3 litres de mon sang étaient partis dans mon ventre. J'ai été ainsi réopéré en urgence, transfusé abondamment et transféré aux soins intensifs. Mon moral restait bon et j'avais confiance, me disant « Mon Dieu, tu ne m'abandonneras pas, tu l'as promis ». Mais c'était loin d'être fini. Le lendemain, j'ai eu du mal à respirer. Suspicion d'embolie pulmonaire. Là, j'ai commencé à avoir peur. Pas peur de la mort, mais surtout peur que mes 3 enfants restent sans leur maman. On m'a fait faire une scintigraphie en urgence, je me sentais enfermé avec mon masque à oxygène sur le visage. Là, j'ai commencé à crier à Dieu et à angoisser. Quelques heures plus tard, ce diagnostic était écarté. Il s'agissait en fait d'épanchement dans les plèvres, c'est-à-dire autour des poumons. Ceci était une conséquence de ma seconde intervention. Un pneumologue très compétent s'est occupé de moi, mais en attendant, j'avais toujours autant de mal à respirer. Et ce soir-là, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'étais prisonnière de mon lit avec des tuyaux partout et un masque à oxygène sur le visage. Je me sentais mal physiquement, avec des douleurs et des difficultés respiratoires et mal moralement. Je pleurais, je n'arrivais pas à dormir. J'ai commencé à avoir des pensées envahies d'idées tristes. Tout ce que je venais de vivre repassait sans cesse dans ma tête. Des scènes de films que j'avais vus lorsque j'étais ado et qui m'avaient terrifié à l'époque me sont revenus à ce moment-là. Toutes ces choses tournaient à toute vitesse dans ma tête et bombardaient mes pensées. Puis j'ai commencé à distinguer dans ma chambre des objets qui se transformaient en visages phosphorescents et des choses bizarres qui volaient au-dessus de ma tête. Au début, j'ai cru que c'était les médicaments, je ne voyais pas trop lesquels. Je vous rappelle qu'elle est médecin. Puis une sorte de serpent se déplaçait près de moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'arrivais pas à prier alors que j'aime tant prier mon Dieu. Et cette pensée m'est venue, ton ennemi est là, dans la pièce, et il veut te tuer. Maintenant, je sais que cette idée venait de l'Esprit de Dieu. Mais sur le coup, je ne savais pas trop quoi en penser. Mon angoisse était grande. J'ai alors mis en pratique la lettre de Jacques qui dit, et j'ai dit à haute voix à travers mon masque, « Jésus-Christ est mon sauveur. Je me soumets à son autorité et à lui seul. Et au nom de Jésus-Christ, je commande à Satan et à tous les esprits démoniaques de s'éloigner de moi. » À l'instant même, tout a disparu. Et j'ai retrouvé le contact avec Dieu. J'ai de nouveau pu prier. Le psaume 23 est venu à mon esprit. J'ai récité, les yeux pleins de larmes, certains versets dont je me souvenais. J'ai crié à Jésus. Je l'ai appelé à l'aide. Je me suis humilié devant lui. J'ai demandé pardon si j'avais pu faire quoi que ce soit qui ne l'honore pas. La paix du Seigneur a rempli mon cœur et la voix du Seigneur s'est fait entendre à moi. Et il m'a dit, je t'aime d'un amour éternel. Tu es précieuse pour moi, je t'aime, je donnerai des nations en échange de ta vie. J'ai donné ma vie pour toi, n'oublie pas, j'ai donné ma vie pour toi et je ne t'abandonnerai jamais. Alors j'ai osé demander à Dieu un miracle. J'ai dit, Seigneur, rétablis-moi vite, je ferai ma part, je ferai tous mes efforts pour me remettre, mais toi seul peux faire ce miracle. Et après cela, contre toute attente, je me suis endormi. Et le lendemain, j'ai remarché. Ma saturation en oxygène était bien meilleure et n'a fait que s'améliorer depuis. Je suis allé de miracle en miracle. Au petit matin, j'ai relu le psaume 23 en entier et je comprends maintenant ce que signifie tout ce qu'il dit. Et ce qui est troublant, et je termine avec cela, c'est que des frères et sœurs, dans la foi en Christ, ont eu des insomnies cette nuit-là et ils ont eu à cœur de prier pour moi. D'autres ont eu des signes physiques comme des nausées, des brûlures d'estomac, des maux de ventre qui les ont poussés à prier pour moi, avec pour certains la conviction que Satan voulait m'ôter la vie. Beaucoup d'amis chrétiens ont prié pour moi. Je suis actuellement dans les verts pâturages, près des eaux calmes, et ma reconnaissance envers le Seigneur est sans borne. Il m'a sauvé une fois encore. Waouh ! Quel témoignage, mes chers ! Cette sœur, ça fait des années que je la connais, hein, c'est une femme qui aime le Seigneur, une femme qui témoigne à tous ses patients, une femme qui vraiment sert le Seigneur avec son mari qui est pasteur, et voilà ce qu'elle a vécu, quoi, hein. Et vous savez, parfois, la nuit, lorsque vous vous réveillez, il y en a parfois certains qui ont des insomnies. Alors, ça peut être lié à toutes sortes de choses. Mais si parfois, la nuit, vous vous réveillez, tout d'un coup, en pensant à quelqu'un ou en étant pris d'un sentiment, tout d'un coup, vous avez envie de prier pour quelqu'un, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et faites comme le Seigneur est en train de vous conduire, parce que peut-être, effectivement, que cette personne, que ce frère, que cette sœur, cette personne à qui vous pensez, est en train de vivre un combat. Et vous ne savez pas la nature de ce combat, mais vos prières vont apporter quelque chose au niveau spirituel et vont permettre que Dieu manifeste sa puissance et accorde sa délivrance. Alors voilà un petit peu ce dont il est question dans ce psaume, derrière ce que je viens de dire. J'aimerais préciser aussi que les pièges que notre ennemi nous tend sont nombreux. Il y a aussi, je le souligne au passage, je n'en avais pas parlé pendant ce temps de formation sur le combat spirituel, les problèmes d'ordre moral, la convoitise, l'orgueil, la tentation parfois d'abandonner la foi, de tout lâcher, le découragement, des passions qui parfois à un moment donné dans notre vie peuvent nous assaillir alors que nous n'avons rien fait. Je pense à ce pasteur de 65 ans qui un jour a écrit une lettre déchirante à David Wilkerson et qui lui dit ceci, « Les membres de ma congrégation me reconnaissent comme un homme de prière ». Mais maintenant, venant d'on ne sait où, des pensées impures ont commencé à venir. Je connais une convoitise comme je n'en ai jamais connue dans ma vie. Je n'ai pas succombé à la tentation, dit-il, mais j'ai été dans un continuel combat depuis des mois. Je sais que c'est une attaque de l'ennemi. Il veut détruire le ministère dans lequel Dieu me fait prospérer. Priez pour moi, s'il vous plaît. Et voyez-vous, les pièges que l'ennemi nous tend sont différents et changent en fonction des saisons de notre vie. Des choses qui peut-être étaient pour nous une occasion de chute à 18, 25 ans ou 35 ans changent lorsque nous avons 45 ans, 55 ans, 70 ans, mais les principes spirituels restent toujours les mêmes. Alors je ne dis pas ça ce matin pour nous effrayer, je ne dis pas ça pour que nous ayons peur de quoi que ce soit. Le seul que nous devons craindre et aimer, c'est le Seigneur, c'est le Christ, lui qui a donné sa vie, mais pour que nous soyons vigilants et que nous n'oublions pas que parfois, eh bien de manière sournoise, des choses peuvent se passer et profondément nous déstabiliser. Et puis ces êtres spirituels nous tendent aussi parfois des pièges dans des domaines plus subtils, des choses qui nous paraissent moins importantes. Le psaume 91 fait référence à un animal tout mignon. À un moment donné, il est question du lionceau. Alors que peut-on voir derrière ce lionceau? Personnellement, j'en ai jamais vu, si ce n'est à la télévision en reportage. J'en ai jamais eu dans mes bras, ou alors si c'était le cas, c'était en peluche. Hein. Le lionceau représente ici ce qui est mignon. Un lionceau, on a presque envie, enfin on a envie, dans les premiers jours, dans les premières semaines, peut-être de le prendre dans ses bras, de jouer avec lui, tellement c'est mignon. Seulement un lionceau, vous le savez, il grandit et après c'est autre chose. Eh bien derrière ce lionceau, on pourrait voir ces choses dans notre vie où parfois on se dit « oh c'est moins important ». Ces domaines dans notre vie, on se dit « c'est pas grave ». Un peu de mensonge, un peu de religiosité, des demi-vérités, un petit peu de pardon à celui ou à celle qui m'a offensé. Et puis finalement, ça fait des années que je suis le chrétien, et puis le Seigneur, il me connaît bien, et je le connais bien. On est bien copains tous les deux, et finalement, Dieu va s'accommoder de cela. Ces domaines dans notre vie où parfois nous faisons des compromis, ces domaines dans nos vies où parfois nous nous disons « ce n'est pas grave ». Mais en nous disant cela, quelque part, c'est une foi au rabais ou une certaine forme d'éthique au rabais que nous allons avoir dans notre existence. Et si nous ne sommes pas vigilants et si nous ne faisons pas attention, sans pour autant devenir légaliste, bien entendu, nous risquons eh bien, d'être fortement perturbés. Une histoire pour illustrer cela. C'est une histoire qui se passe apparemment de l'autre côté de l'Atlantique, dans une grande réserve, et c'est l'histoire d'un garde forestier qui s'occupait dans une immense réserve d'arbres centenaires, et il était là pour les surveiller, etc. Et puis un jour, un de ces arbres, qui devait avoir plus de 4 siècles, qui était là depuis plus de 4 siècles, voilà que cet arbre se met à dépérir, et qu'en l'espace de quelques semaines, il se retrouve à terre, terminé, il est mort. Et ils ont fait des recherches et ils ont essayé de voir qu'est-ce qui s'était passé et comment se fait-il que cet arbre était mort, avait dépéri. Parce que c'est un arbre qui, au cours de l'histoire, avait essuyé des inondations, avait connu des tempêtes, avait connu des orages, des branches étaient tombées, etc. Et pourtant, il était toujours plein de sève et de vie. Et finalement, quand on a analysé un petit peu ce qui se passait, ils sont venus trop tard, ils se sont rendus compte que c'était de minuscules coléoptères, donc de petits insectes que vous allez pouvoir écraser entre votre pouce et votre index. Mais qui était là et qui pullulait par centaines de millions, par milliards dans cet arbre, et qui de l'intérieur l'avait complètement rongé. Et c'est parfois aussi comme ça que notre ennemi agit lorsque nous-mêmes, dans nos vies, nous laissons des portes ouvertes, et que nous sommes un petit peu légers à certains niveaux, ou que nous nous permettons certaines choses. Et c'est de manière insidieuse, tout d'un coup, que de l'intérieur, nous allons être rongés, et que progressivement, nous perdons cette vie, nous perdons cette sève, nous perdons cette onction, c'est-à-dire cette présence de l'Esprit de Dieu en nous. Il est toujours là, mais il va être étouffé par toutes sortes de fatras. Il y a ce passage qu'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste qui nous dit qu'une seule petite mouche gâche l'huile d'onction. Vous savez que dans le lieu très saint, il y avait cette huile d'onction qui était là. Et cette huile d'onction qui servait pour oindre les sacrificateurs, etc. Et c'était une huile qui devait être préparée selon un certain protocole. Et il ne pouvait pas, et si une mouche se posait ou un moucheron se posait dessus, immédiatement elle devenait impure et elle n'était plus sainte. Et il y a là une image aussi de nous qui sommes le temple de l'Esprit. Le temple où le Seigneur habite en nous. Où il nous a accordé son onction. Et la présence de l'Esprit en nous est quelque chose de précieuse ou de précieux. Et puis bien sûr, à côté de cela, il y a aussi toutes sortes d'attaques qui sont mentionnées dans ce psaume, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Il est question de maladie, il est question d'épidémie, il est question de malheur, il est question de catastrophe. Et tout cela résume un petit peu tout ce que ces pèlerins qui se rendaient à Jérusalem étaient en train de vivre. Et beaucoup de ces catastrophes ou de ces combats que ces hommes et ces femmes vivaient, pour certains, peut-être, y étaient-ils pour quelque chose, bien sûr, surtout s'ils avaient ouvert une porte. Mais pour d'autres combats, ils n'y étaient absolument pour rien. Il y a parfois des épidémies, il y a parfois plutôt des problèmes ou des souffrances ou des maladies ou toutes sortes de choses qui tout d'un coup fondent sur nous. on aime le Seigneur, on est fidèle, on témoigne, et puis tout d'un coup, voilà qu'il y a un malheur qui soudainement fond sur nous. Et on n'a que les yeux pour pleurer et se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Alors voyons un petit peu maintenant, dans un second et dernier temps, comment est-ce que Dieu intervient, comment est-ce que Dieu agit, que ce soit par rapport à ces combats de spirituels que nous pouvons vivre, que ce soit par rapport à des combats où nous-mêmes nous avons ouvert la porte, ou d'autres choses pour lesquelles nous ne sommes pas responsables. Et je vais terminer avec cela. Ce qui ne veut pas dire que je finis dans 5 minutes. Ceux qui m'ont déjà entendu prêcher savent que je ne prêche pas 20 minutes ni une demi-heure. Néanmoins, on sera plus court que les autres fois. Alors, de quelle manière le Seigneur nous protège-t-il et que nous promet-il et que fait-il pour nous? Dans le psaume 91, les versets 1 et 2 nous citent 4 noms de Dieu. 4 noms de Dieu qui sont différents et chacun de ces noms explicite un peu, même beaucoup, ce que Dieu fait pour nous. Et donc, je vais reprendre chacun de ces noms et voir un petit peu ce qui se passe. Au verset 1, Dieu est appelé le Très-Haut. Et c'est Alphonse Maillot qui, dans sa traduction de ce psaume, Alphonse Maillot qui était un prédicateur protestant excellent, qui traduit non pas le Très-Haut, mais qui traduit par le Sublime. Et j'aime bien cette traduction. Le Sublime. Le Très-Haut, c'est qui? Eh bien, le Dieu Très-Haut, c'est celui à qui rien n'échappe. C'est celui qui est au-dessus de notre situation. Alors, comprenez-moi bien, en français, dire « je suis au-dessus de la situation », c'est parfois un petit peu péjoratif. Moi, je suis au-dessus de ça, quoi. Autrement dit, bon, voilà. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Dieu est au-dessus de la situation dans le sens qu'il voit dans le passé, il voit dans le présent, il voit dans le futur, et par conséquent, il a une vue globale de la situation et il maîtrise parfaitement la chose. Nous, on a la tête dans le guidon, on a l'impression d'être complètement coincé et dépassé, mais Dieu, lui, il est au-dessus de la situation. En même temps, il est avec nous pleinement, mais en même temps, il est au-dessus, et par conséquent, il a une toute autre vue. Et cela souligne aussi la force, cela souligne aussi l'autorité. Les tentations auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie nous semblent peut-être insurmontables, mais Dieu est là, il est le Très-Haut, il est celui qui est au-dessus. Au-dessus aussi des puissances, au-dessus des autorités dont nous avons parlé l'autre soir pour celles et ceux qui étaient là. Et celui qui est au-dessus des puissances, celui qui est au-dessus des autorités, celui qui est le Dieu Très-Haut, celui qui est le Sublime, c'est le Christ, c'est lui le Maître. C'est lui, celui qui a pouvoir et puissance sur tout l'univers. Et comme le soulignent nos amis orthodoxes, vous savez, les orthodoxes, ils aiment bien les peintures, et il y a une peinture qu'on retrouve souvent chez les orthodoxes, c'est le Christ Pantocrator. Vous voyez un Christ qui est là, qui a les bras étendus, et c'est le Christ, ça représente le Christ qui est tout puissant. Tout puissant non seulement sur nos vies, mais tout puissant sur la terre, tout puissant sur l'univers. Et cette peinture représente un petit peu, ou cette icône plutôt représente un petit peu, le fait qu'il n'y a aucune sphère de notre monde, aucune sphère de l'univers, aucune sphère de nos vies personnelles aussi, a fortiori, qui ne sont ou qui seraient en dehors du contrôle du Christ. C'est le Christ Pantocrator, Pan qui signifie tout, et Kratos qui signifie puissant ou fort. Donc c'est le Christ tout-puissant, fort, le Sublime, celui qui est au-dessus, celui qui maîtrise toute chose. Et puisqu'il est le Dieu très haut, le Sublime, ça veut dire que peu importe les pièges de l'oiseleur, les tentations, les découragements, les souffrances qui tout d'un coup fondent sur nous, nous sommes en sécurité. Au verset 7, il est dit ceci, « S'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ça veut dire quoi? Comment faut-il comprendre ce passage? Est-ce qu'il faut comprendre dans le sens absolu? Ça veut dire que tu ne seras pas atteint, ça veut dire que rien, absolument rien ne peut t'atteindre. Dire cela, ce serait contredire ce que ces pèlerins vivent, puisque je vous rappelle que s'ils vont à Jérusalem, c'est justement qu'ils vivent des combats et des souffrances. Et ce serait contredire aussi ce que nous vivons tous dans notre expérience chrétienne. Et nous savons qu'il y a des combats, nous savons qu'il y a des luttes, nous savons qu'il y a des moments qui sont extrêmement pénibles, où nous souffrons, où nous sommes mal. Ça ne veut pas dire cela, mais ça veut dire qu'il y a une protection qui est là, une protection qui est réelle et qui peut se manifester ou non par une délivrance. Dieu peut accorder la délivrance, mais même s'il n'accorde pas la délivrance, cela ne change rien au fait qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant et qu'il maîtrise la situation. Et on se rappellera que la mort, la fin de notre vie, est une délivrance. C'est la délivrance extrême pour enfin rentrer pleinement dans la présence du Seigneur. Mais en même temps, le psaume souligne aussi que cette présence ou cette délivrance se manifeste dès aujourd'hui. C'est Alfred Kuhn, je crois, qui, dans un de ses commentaires, dit que tant que Dieu a une œuvre pour nous, ici-bas, ou à nous confier, nous sommes immortels. Je ne sais pas si c'est 100% biblique, mais en tout cas, une pensée qui est sympathique. Il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il y a encore quelque chose pour moi, hein ? Ça ne veut pas dire que nous allons faire n'importe quoi, agir n'importe comment dans notre vie. Il y a 2 ans de cela, j'étais invité par les Assemblées de Dieu, par mon ami Émile Ladoté, qui est le président des Assemblées de Dieu au Bénin, pour un séminaire de formation et d'enseignement pour leur pasteur. Et lorsque nous sommes quittés de ce temps de séminaire, nous étions à Dassa, au centre du pays, dans leur institut biblique. Émile s'est adressé à ses pasteurs, ils étaient plus de 400, et il leur dit la chose suivante. Quand vous prenez votre voiture tout à l'heure, soyez vigilants. Si vous roulez à 90, Jésus est avec vous. Si vous roulez à 110, il était avec vous dans la voiture. Mais si vous roulez à 130, il va sortir de la voiture. Autrement dit, nous avons notre part de responsabilité, et ce n'est pas parce que le Seigneur nous promet sa protection que nous pouvons agir n'importe comment. Donc ça, c'est la première des choses, le sublime, le Dieu très haut. Et puis le psaume 91, verset 1 toujours, nous parle également du Tout-Puissant. Le Dieu qui est notre refuge et qui veille sur nous s'appelle El Shaddai. C'est le nom par lequel ou au travers duquel Dieu s'est révélé à Abraham. Lorsque Abraham eut 99 ans, il nous est dit que l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Conséquence de cela, conduis ta vie sous mon regard de manière irréprochable. Et quand nous sommes pris par les filets de l'oiseleur, nous nous rappellerons que non seulement Dieu est au-dessus et maîtrise et connaît notre situation, mais qu'il est aussi puissant, puissant pour intervenir. Et que sa toute-puissance, même si quelque part ou parfois elle peut nous faire peur ou nous saisir d'une sainte crainte, nous rappeler également que Dieu n'est pas notre ennemi. Et comme je le dis souvent, Dieu n'est pas contre nous. Et même lorsque nous laissons parfois des portes ouvertes dans notre vie, même parfois lorsque nous nous éloignons de lui, ou que nous sommes pris par toutes sortes de choses et que nos réactions ne sont pas de bonnes réactions, et cela nous arrive à tous, à commencer par moi-même, Dieu n'est pas contre nous, Dieu est 100% pour nous. Non seulement il est 100% pour nous, mais il est 100% avec nous. Et la preuve que Dieu est 100% pour nous, c'est qu'il a donné son Fils, le Christ, à la croix, qui est mort pour nos péchés. Et en donnant Jésus-Christ, il nous a montré, il nous a prouvé qu'il était 100% pour nous. Parce que c'est pour nous qu'il a donné le Christ. Et au travers de ce sacrifice et du fait qu'il vit maintenant, cela nous montre que Dieu est toujours pour nous. Même s'il n'est pas forcément d'accord avec nous, mais il reste toujours 100% pour nous, jamais contre nous. Quel père serait contre ses enfants ? Même lorsque nos enfants parfois font n'importe quoi, moi j'en ai 4, et qu'on n'est absolument pas d'accord avec eux, on n'est jamais contre eux, jamais. On est toujours pour eux, on cherche toujours le bien. À combien plus forte raison notre Père Céleste agit de cette manière-là. Et il est là pour nous délivrer, nous aider et aussi nous accorder sa bénédiction. Je ne développe pas cet aspect-là et je passe au troisième nom dont il est question et qui se trouve au verset 2. Au verset 2, nos traductions disent « Je dis au Seigneur ». C'est comme ça, en tout cas que moi j'ai dans la seconde 21. Littéralement, selon certains traducteurs, il s'agit ici d'un impératif. Par conséquent, on pourrait traduire aussi, non pas « je dis au Seigneur », mais « dis au Seigneur ». Et si on traduit en disant « dis au Seigneur », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous imaginez, vous avez ces pèlerins qui arrivent à Jérusalem et ils vont voir les prêtres qui sont là. Donc, le prêtre qui est le représentant entre Dieu et les hommes. Et qui va les introduire dans la présence de Dieu, les sacrifices, etc. Et donc, ils viennent avec ces conflits, avec ces combats qui sont les leurs, avec les souffrances. Et le prêtre, en venant dans ce lieu saint, rappelle et leur dit, « Dis au Seigneur, dis-lui tu es mon refuge, dis-lui tu es ma forteresse. » Comme le psaume 103, « Dis, bénis l'Éternel, mon âme. Je vis des situations difficiles, mais je vais me dire à moi-même. Et là, toi, tu dis, le prêtre dit, dis au Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma protection, tu es celui sur qui je veux maintenant compter, celui sur qui je veux m'appuyer. Et le Seigneur, dans ce contexte-là, c'est Yahweh, c'est le nom que les Juifs ne pouvaient pas prononcer, c'est le nom que vous retrouvez plus de 6000 fois dans la Bible, c'est le nom au travers duquel Dieu s'est révélé à Moïse. Et puis Yahweh aussi, ici, il nous est donné des informations intéressantes sur ce que le Seigneur, justement, fait. Ici, dans ce passage, il est surtout question du Dieu cuirasse, c'est-à-dire du Dieu qui protège. Du Dieu qui protège. Et ce n'est pas le pèlerin qui vient et qui va saisir, comme dans Éphésiens, le bouclier de la foi, mais cette fois-ci, c'est le pèlerin qui, en venant dans le temple, cherche la protection de Dieu. Et par conséquent, ce n'est pas lui qui fait quelque chose, si lui, il vient, mais c'est Dieu qui fait quelque chose pour lui. Et qui lui accorde sa protection, comme un bouclier. Une image, pensez un petit peu, qui devait parler certainement aux soldats, qui eux aussi venaient chercher du secours et de l'aide, et qui en avaient également besoin. Et donc les flèches peuvent voler dans tous les sens, que ce soit des attaques d'origine spirituelle, que ce soit les circonstances de la vie qui se déchaînent contre le pèlerin ou contre nous, le bouclier, c'est le Seigneur qui vient et qui le pose entre l'ennemi ou les ennemis et celui qui se cache derrière le Seigneur. Et ce Dieu, c'est le Dieu qui protège, et il y a là quelque chose de beau. Il y a non seulement l'image du bouclier ou de la cuirasse qui est utilisée, mais il y a également une image très tendre et très belle. Alors je ne sais pas si cette image très belle ou très tendre devait parler davantage aux dames, j'en sais rien, c'est une interprétation personnelle, mais il est question de ses ailes. Il te fait un abri et sous ses plumes, tu te réfugies. Une image qui est forte, qui est utilisée à quelques reprises, pas souvent, dans l'Ancien Testament. Alors dans un contexte patriarcal, c'est une image qui est forte pour l'époque et qui devait parler aux pèlerins qui étaient là. L'image de la poule qui prend soin de ses poussins. Et Dieu dit, moi je suis un petit peu comme une poule et je prends soin de mes poussins. Ils viennent se réfugier sous mes ailes. Et il y a sous cette image des ailes qui est utilisée ici quelque chose de beau. Il y a d'abord l'image de la poule qui fait référence à ses poussins dont elle prend soin, sur lesquels elle veille. Et puis il y a aussi une autre image qui apparaît, c'est l'image des chérubins. Vous savez qu'au temple de Jérusalem et dans le lieu très saint, il y avait le coffre de l'Arche de l'Alliance. Sur le coffre de l'Arche de l'Alliance, il y avait le couvercle en or massif où était fait l'expiation une fois par an pour le péché du peuple. Et sur ce couvercle-là, fondu dans la masse, il y avait deux chérubins, donc des sortes d'anges, certainement, qui avaient des têtes hybrides, à la fois animaux et hommes, on ne sait pas trop, et qui étaient là et qui se faisaient face et qui se touchaient simplement avec leurs ailes. Et ces ailes qui se trouvaient sur le couvercle, c'est quelque chose de fort, parce que Dieu dira à Moïse, c'est là que je te rencontrerai. C'est à cet endroit-là, quand le grand prêtre venait, que la gloire de Dieu se manifestait. Autrement dit, que la nuée de Dieu descendait. Et quand la nuée de Dieu descendait dans un endroit, on ne pouvait même pas rester là. Après, c'était la présence de Dieu qui restait là. Et donc, c'est là que Dieu se manifestait, que Dieu se révélait. Et donc, la présence de Dieu était tellement forte dans ce lieu que non seulement c'était celui qui était dans le lieu très saint qui en bénéficiait, mais tous ceux qui étaient dans un périmètre certainement immense, toute la ville de Jérusalem, bénéficiaient de cette présence de Dieu qui était là. Et c'est pour cela que les pèlerins allaient là-bas, parce qu'ils savaient qu'à partir du moment où ils allaient mettre le pied dans la ville sainte, à partir du moment où ils allaient mettre le pied dans le temple ou dans le parvis, à partir de ce moment-là, il y avait la présence de Dieu qui était là. Et quand la présence de Dieu est là, nous voyons les choses totalement différemment, n'est-ce pas ? Et quand la présence de Dieu est là, tout d'un coup, il y a les problèmes, tout d'un coup, il y a des situations qui vont se débloquer en l'espace de quelques instants, parce que Dieu est présent. Et c'est ce qu'ils venaient chercher. Et puis derrière ses ailes, nous pouvons voir aussi, comme cela est mentionné au verset 11 et 12, le fait qu'il y a également des anges qui étaient là. Les anges sont également un des moyens que Dieu utilise pour nous accorder sa protection. Alors, il est vrai que les versets qui sont mentionnés ici sont mentionnés dans le Nouveau Testament et sont mentionnés par Satan lorsque celui-ci va vouloir tenter le Christ, mais il n'en demeure pas moins vrai, qu'ils sont justes et que cités dans un bon contexte et utilisés à bon escient, eh bien, le Seigneur utilise également ses anges, et on ne développera pas cet aspect-là, pour venir nous protéger et venir nous accorder sa protection. Donc voilà un petit peu cette image qui se trouve derrière ce nom de Dieu, ce Yahweh qui protège, mais en même temps qui protège au travers de la cuirasse et puis aussi au travers de ses plumes qu'il va étendre et qui représente le poussin, qui représente eh bien ces plumes des anges qui se trouvaient au-dessus du coffre de l'Arche de l'Alliance, pardon, et puis aussi au travers des anges. Et je termine cette fois-ci. C'est la vraie fin, avec le quatrième et dernier nom qui est mentionné au verset 2, où nos traducteurs vont rendre par « tuer mon Dieu ». De qui s'agit-il? Personnellement, je serais tenté de voir ici une proximité que le psalmiste a avec Dieu. Et justement, à cause, ou plutôt grâce à cette intimité qu'il a de Dieu, ce qu'il a déjà compris et réalisé de Dieu, lui permet de s'adresser à lui en lui disant « tu es mon Dieu ». Pour nous, c'est évident. Peut-être que si on vient du milieu catholique, ben voilà, on s'est adressé souvent à Dieu en le vouvoyant, en marque de respect pour lui. Mais dans l'Ancien Testament, il y a 2000, 2500, 3000 ans, dire à Dieu « tu ». Dans le contexte de l'époque, c'était quelque chose presque d'impensable. Dieu était tellement saint, si on commettait une faute, on pouvait perdre la vie, ou avoir une malédiction sur nous, sur notre famille. Mais cet homme avait déjà compris quelque chose de la grandeur, ces psalmistes avaient déjà compris quelque chose, non seulement de la grandeur, mais de la proximité aussi qu'il était possible d'avoir avec Dieu. Dieu n'est pas simplement le sublime, c'est-à-dire celui à qui rien n'échappe. Dieu n'est pas simplement celui qui est tout-puissant et qui vient nous délivrer et qui nous bénit. Dieu n'est pas simplement celui qui nous protège, il est ceci, mais Dieu est ce Dieu aussi que nous pouvons appeler par son nom, à qui nous pouvons nous adresser dans notre intimité. Que ce soit dans notre voiture, que ce soit chez nous à la maison, que ce soit dans les différents lieux où nous nous trouvons, que ce soit ce matin dans le fond de notre cœur, nous pouvons lui dire « tu es mon Dieu et c'est vers toi que je me tourne ». Et pour bénéficier de la présence de Dieu, eh bien, c'est instantané. On n'a pas besoin de chanter 50 chants avant de pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. On n'a pas besoin même d'ouvrir la parole de Dieu, même si bien sûr celle-ci peut nous y aider. Pour bénéficier de la présence de Dieu, je me tourne vers lui, je me concentre et je dis « tu es mon Dieu et c'est à toi maintenant et vers toi que je tourne tout mon être ». Et simplement, et ça je peux le faire n'importe où. Alors quelles que soient les tempêtes qui parfois s'abattent sur nous, qu'elle soit d'origine spirituelle, démoniaque, comme nous l'avons vu tout à l'heure ou comme nous en avons parlé pendant ce week-end, que ce soit de notre propre faute, parce que nous avons ouvert des portes et que nous avons été négligents, ou que ce soit parce qu'il y a des conditions qui sont inexpliquées, on ne sait pas toujours pourquoi, comme le témoignage pardon, de cet médecin, on ne sait pas pourquoi c'est venu. Toujours avoir toutes sortes d'interprétations, dire s'il est lié à son ministère ou au ministère de son mari, on ne sait pas. Et Dieu ne nous le révèle pas forcément. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous accorde son refuge. La pensée que j'aimerais que vous puissiez garder ce matin, c'est ce verset 9. « Tu es mon refuge. » Ou alors « Dis à l'Éternel », certainement comme il faudrait traduire, et ce prêtre qui s'adresse à ses pèlerins, « Dis à l'Éternel, dis-lui, tu es mon Dieu, tu es mon refuge. » Mon refuge, ce n'est pas mon patron. Mon refuge, ce n'est pas le salaire que je reçois à la fin du mois. Le refuge, ce n'est pas ma maison ou mon appartement. Le refuge, ce n'est pas l'Église, même si l'Église joue un grand rôle. Le refuge, ce n'est pas mon conjoint ou la relation que j'ai avec mon conjoint, même si c'est important. Le refuge, ce ne sont pas mes enfants, ce n'est pas ma famille. Le refuge suprême, celui sur qui nous devons compter et apprendre à compter en toutes circonstances, c'est Dieu. Et ça, c'est le travail de toute une vie, parce que sans cesse, nous sommes là, et moi le premier à avoir des béquilles, à chercher des béquilles pour essayer de me récupérer dans telle ou dans telle situation. Et au travers de tout cela, Dieu nous dit, non, tu dois apprendre à ce que ce soit moi qui soit d'abord ton refuge. sans négliger, bien entendu, tout le reste qu'il met à notre disposition. Je vous invite à vous lever, nous allons prier, puis nous allons prendre aussi ensuite un petit refrain qui résume ce message que j'ai donné ce matin. Et donc j'invite déjà les musiciens, s'ils veulent bien, à venir se joindre et se préparer. Et j'aimerais dans un premier temps déjà prier. Seigneur, oui, c'est toi qui nous délivres du piège de l'oiseleur. C'est toi qui nous délivres aussi de la peste dévastatrice, c'est-à-dire de toutes ces maladies, toutes ces choses, tous ces malheurs qui tout d'un coup fondent sur nous, alors qu'on n'a rien fait pour que ça arrive, mais tout d'un coup, paf, ça nous vient et ça nous laisse totalement exempts. Seigneur, c'est toi qui nous couvres aussi de ses ailes et c'est auprès de toi que nous trouvons un refuge sous ton plumage et ta fidélité est pour nous un bouclier et une cuirasse. Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance encore ce matin que nous nous tournons vers toi. Nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu sublime. Tu es celui qui est au-dessus, qui voit dans le passé, dans le présent, dans le futur. Tu es Seigneur aussi le Dieu puissant qui vient pour délivrer. Tu es également le Dieu qui vient pour nous protéger et auprès duquel nous pouvons nous réfugier. Et peut-être que nous n'avons même plus les forces pour nous adresser à toi ce matin. Et peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont dans cette situation, vous êtes là, vous n'avez même plus le courage ou les forces de vous adresser à Dieu, vous ne savez même plus quoi lui adresser dans votre prière. Alors simplement, venez dans sa présence, dites-lui « Seigneur, je viens dans ta présence et c'est sous tes ailes maintenant que je me réfugie et c'est auprès de toi que je viens chercher le secours. » Seigneur, merci parce que tu es pour nous, tu l'as prouvé en Jésus-Christ et c'est à lui que nous voulons rendre tout l'honneur et toute la gloire encore ce matin. Amen. Remercions Seigneur parce que tu es là, comme nous l'avons chanté, et nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles, Seigneur, parce que ta présence est réelle, parce que ta présence nous accompagne non seulement dans ce lieu, mais dans les différents lieux où nous allons repartir, dans nos maisons, là où nous sommes peut-être attendus maintenant. Ta présence sera là, Seigneur, aussi avec nous pendant cette semaine, dans les défis qui sont là devant nous, dans peut-être les tentations qui vont se présenter à nous. Ta présence sera là aussi si l'ennemi vient pour chercher à nous déstabiliser, à nous voler des choses ou à nous faire perdre de vue l'essentiel. Seigneur, ta présence est réelle. Ta présence n'est pas une construction intellectuelle ou psychologique, mais ta présence est vraie et tu fais quelque chose, Seigneur. Je prie que celui ou celle qui a besoin de délivrance reçoivent cette délivrance, que celui ou celle qui crie à toi et s'attend à toi depuis tellement de temps puisse voir que tu es le Dieu vivant qui agit pour lui, qui agit pour elle, aujourd'hui et pendant cette semaine. C'est au nom de Jésus-Christ que je te demande et que nous te demandons cela. Amen.
J'aimerais remercier chacun pour sa participation à ce temps de culte. Un merci tout particulier à notre Dieu. Merci pour ce que nous avons reçu. Merci aussi pour cette autorité qu'il nous donne pour faire face à l'ennemi, pour vaincre l'ennemi. Je partage avec vous les annonces du programme. Donc, comme ça a déjà été dit, donc, demain après-midi, le Fam Club est un Fam Club ouvert où chacun peut participer, même les messieurs. Le Fam Club aura lieu ici à l'église, donc demain à 14h. Sur le thème des guérisseurs. Mardi, la réunion de prière. C'est important de prier. C'est dans la prière qu'on obtient les victoires. Moi, je vous invite à prier, bien sûr, chez vous, mais à venir aussi prier dans l'église, à prier en commun, tous ensemble, à prier, à intercéder pour notre Dieu. Dimanche prochain, c'est donc un cinquième dimanche. Donc un culte particulier, un culte de témoignage, c'est important de se préparer aussi pour rendre témoignage. On vous invite à préparer des témoignages pour nous, qui nous encouragent, des témoignages aussi qui rendent gloire à notre Dieu, qui mettent en évidence l'action de Dieu en nous et autour de nous. On vous invite aussi à nous limiter à 5 minutes afin que un grand nombre puisse participer. C'est peut-être pas forcément toujours évident. Le culte sera suivi d'un repas canadien. Donc on prendra du temps aussi ensemble pour partager. Alors, s'il y a personne qui organise qui prend quoi, c'est pas compliqué. Chacun prend un petit plat salé, un petit plat sucré, un dessert, une salade peut-être, et on partage. C'est important aussi de pouvoir partager. On avait prévu là une réunion de membres le mardi d'après. On vous propose de l'avancer un petit peu et de la faire dimanche prochain à 14h, pour différentes raisons. Alors, si ça, on est désolé, on s'y prend un petit peu à la dernière minute. Si ça dérange des personnes, faites-nous le savoir et puis on communiquera aussi par email, on confirmera en tout cas par email. Le but de la rencontre, donc disons les différents sujets qui seront abordés, c'est de parler déjà du renouvellement du conseil, de parler de la question des dons et l'affectation des dons que l'Église fait. Et puis ensuite, un sujet dont on a déjà parlé depuis longue date, la réflexion pasteur, la réflexion du pasteur. Donc la première étape de cette réflexion qui consiste en une récolte d'idées de façon à alimenter le sujet de cette réflexion pasteur. Prions aussi pour cela, pour préparer ce temps de partage. Le mardi 31, donc le mardi d'après, il y aura l'étude biblique des aînés ici à 14h30. Le samedi 28, donc samedi prochain, il y a une comédie musicale qui se fait à Saint-Genis au profit du projet humanitaire des jeunes que les jeunes ont pour la Roumanie. J'ai mis un flyer au fond de la salle, si vous voulez plus d'informations. Un petit peu plus en avance dans les dates, le dimanche 19 juin, ce sera donc les sorties des écoles du dimanche. Les parents normalement sont informés, mais c'est important aussi de le rappeler, de le savoir. Et puis, beaucoup plus longtemps en avance, on a prévu un week-end d'église fin septembre. On avait prévu donc le week-end du 24-25 septembre. Ce week-end est décalé d'une semaine, un petit peu plus tard. Donc, le week-end d'église aura lieu les 1er et 2 octobre. Tu voulais partager une annonce ?
Oui, je me permets de faire une dernière annonce pour celles et ceux qui n'étaient pas présents surtout. Vous avez sur la table du fond des livres que j'ai ramenés. Alors vous avez un premier livre que j'ai écrit il y a déjà 4 ou 5 ans de cela, mais qui continue de très bien marcher. Merci Seigneur. Médium astrologue guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas. Alors c'est un petit ouvrage qui est très facile à lire, qui dit l'essentiel sur le sujet, qu'il est facile aussi d'offrir à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai pas mal de gens qui l'ont lu, qui non seulement ont été délivrés, mais même qui se sont convertis au travers de cet ouvrage-là. Et puis un deuxième qui s'intitule « Le combat spirituel ». Malheureusement, je n'ai plus d'exemplaires avec moi. Les exemplaires que j'ai, qui me restent, sont réservés. Mais si vous le souhaitez, si le sujet vous intéresse, sachez que j'ai la possibilité, vous avez la possibilité de vous procurer, d'acheter pour pas très cher, une formation vidéo complète sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, vous me payez la formation derrière, vous laissez votre email, je vous enverrai un identifiant qui permettra de vous connecter sur un site privé. Et sur ce site-là, vous avez toute une formation, tout en vidéo, vous avez des audios, vous avez des bonus aussi sur tout le sujet du combat spirituel. Et si le sujet de l'occultisme vous intéresse, je sors d'ici une dizaine de jours une série de 20 vidéos de formation aussi privée sur ce sujet. Donc une formation qui durera 3h40 complète. Et vous laissez simplement votre adresse mail et je vous enverrai la publicité. Et puis vous pourrez découvrir tout cela. Voilà, merci.
Merci. J'imagine que pour ton deuxième livre, c'est encore possible de le commander dans les librairies chrétiennes.
Oui, alors ouais. Si vous pouvez le commander soit dans la librairie, soit même ce que je vous recommande, commandez-le directement chez mon éditeur, BLF Édition. Vous tapez sur Google, BLF Édition, ou BLF Store, je crois, et là, vous pouvez l'acheter, et c'est génial parce que les frais de port sont à 1 centime. Vous voyez, faut pas me demander à moi. Moi, je vous ferai pas les frais à 1 centime. Je peux pas. Donc, faites-le. Allez chez l'éditeur pour 1 centime. Vous serez livré dans 48 à 72 heures.
Merci. Une information que Jean-Paul va nous partager concernant le parcours baptême.
Parcours baptême, on va commencer vendredi soir à 20h30. Alors moi, je voudrais vraiment dire à toutes les personnes que ce parcours baptême, il commence à zéro. C'est-à-dire, si vous ne savez rien du tout, c'est super, c'est justement qu'il faut venir. On va parler du plan de Dieu pour l'homme, de ce qu'est la foi, de ce qu'est la conversion, de ce qu'est le baptême, toutes ces choses-là. Donc si vous n'y connaissez rien, c'est justement là qu'il faut venir. Voilà, c'est intéressant. Donc, par contre, il y a 4 personnes qui sont inscrites, mais si d'autres personnes veulent se joindre, ils le disent juste parce que j'ai un petit matériel à préparer pour chacun. Donc voilà, vendredi 20h30, ici. Merci.
Merci. Comme chaque semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. Cette semaine, on vous invite à prier pour le Laos. Voilà, le Laos qui est le numéro 29. Tout à droite de la carte. Sinon, je vous invite à vous lever. Je partage avec vous encore 2 versets. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, soyez bénis.